Aussi, ma main ne sera-t-elle pas contre toi? Contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une simple puce? Voilà un texte qui est pour le moins interpellant.
Il y a quelque temps déjà, nous avons étudié un exemple biblique de gestion de l'incompréhension et des préjugés. Il s'agissait de Josué, chapitre 4. Aujourd'hui, nous allons examiner un exemple biblique de gestion de l'inimitié, et notamment dans ce cas-ci, l'inimitié d'un proche. C'est le cas de David, qui est victime de l'inimitié de son beau-père, de son roi de beau-père, Saül, premier roi d'Israël. Nous sommes malheureusement tous confrontés aux problèmes relationnels, délicats, fréquents, apparemment sans solution, de l'inimitié, donc du manque d'amitié, même. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, à l'université, dans la famille, parfois même entre les membres du couple, et malheureusement aussi dans l'église. Il y a inimitié entre deux personnes, quand au moins l'une d'elles, parfois les deux, éprouve soit de l'antipathie, soit de l'aversion, des sentiments hostiles, et cela peut même aller jusqu'à de la haine envers l'autre. Parfois, évidemment, c'est réciproque. Si l'une de ces deux personnes fait des avances envers l'autre, et que l'autre les refuse, ou refuse ses invitations, l'autre ne la salue pas ou ne la salue plus, évite sa présence, détruit sa réputation par des calomnies, l'ignore ou même l'humilie en privé ou en public et lui cherche mille petites misères. C'est de l'inimitié. Cette semaine encore, je téléphonais à une amie qui n'est pas de notre église et qui me racontait comment sur le lieu de son travail, elle est victime de 1000 persécutions de la part de ses patrons et des gens qui l'ont employée. Elle est étrangère, elle est d'origine russe, elle parle pourtant bien le français, elle est courageuse, elle est travailleuse, mais elle ne sait pourquoi elle est persécutée par 1000 petites choses. Alors, ça nous arrive tous les jours, c'est un cas pratique. Si ça nous arrive dans l'église, dans notre famille, dans notre foyer, que faire? Comment se comporter? Comment réagir? Oh, les psychologues nous conseilleront certes plusieurs tactiques possibles, mais aujourd'hui, nous nous limiterons à un cas, à une solution, celle apportée par l'exemple de David envers son beau-père et roi Saül. Cette histoire se trouve dans 1 Samuel 24 et aussi elle est répétée presque d'une manière identique dans 1 Samuel 26 et 27. Alors je vous propose de prendre 1 Samuel 24 et de le lire ensemble pour nous rappeler l'histoire. Que s'est-il passé? 1 Samuel chapitre 24. David monta vers les lieux forts d'Engedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire « Voici, David est dans le désert d'Engedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. C'est une expression, un euphémisme, qui signifie « pour aller faire ses besoins ». David et les gens, et ces gens, étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül, et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici, David cherche ton malheur !» Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser ses paroles à Saül, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi, je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui ta bonté envers laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi, que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. Qui sont les protagonistes? Vous les connaissez très bien. Saül. Saül, fils de Kish, le Benjaminite, était plus beau, dit la Bible dans 1 Samuel 9:2, qu'aucun des enfants d'Israël, et il les dépassait tous de sa tête. Saül, premier roi d'Israël, dit Samuel 1:10, était loin de l'Éternel. Il avait été oint par Samuel. Il avait d'abord été fidèle à Dieu. Puis Dieu l'avait rejeté parce qu'il s'en était écarté. Il avait refusé de détruire par interdit le bétail pris au roi Amalek. Et il avait procédé lui-même à un sacrifice alors que c'était normalement réservé au sacrificateur. Péché d'orgueil qu'il a placé au-dessus des désirs et des lois de l'Éternel. Et l'Esprit Saint, dont nous avons parlé ce matin, s'était retiré de lui. C'était aussi le beau-père de David, parce qu'il lui avait donné en mariage sa fille Michal. D'une part, nous avons Saül, d'autre part, nous avons David. David, dernier fils d'Isaïe, le plus jeune, originaire de Bethléem, le berger roux, vigoureux et valeureux qui affrontait les lions dans les pâturages. David, ce jeune homme beau de corps et de visage, ce poète et fin musicien, cet excellent guerrier aussi, ce fin politicien qui était prudent en parole et en acte, celui dont on dit, dans Samuel, que Dieu était avec lui. Il était rempli de l'esprit et de bonne conduite. C'était aussi celui que Saül avait choisi comme page d'armes pour porter ses armes. Et c'était son gendre. Normalement, ils auraient dû s'aimer, ces deux-là. D'où vient donc cette inimitié entre Saül et son gendre parfait, David? Elle se trouve relatée dans Samuel 1 Samuel, chapitre 18. Nous n'allons pas lire tout ce chapitre, mais je vais vous le résumer. Normalement, Saül avait beaucoup de chance d'avoir David pour gendre. Il aurait dû en être fier. Mais il n'a guère été longtemps, et c'est par sa propre faute. Saül avait envoyé David guerroyer contre les Philistins pour qu'il les élimine. Vous vous en souvenez de la bataille initiale entre David et Goliath. Et à partir de ce moment-là, Saül a confié la lutte contre les Philistins à David. Et un jour, de retour vainqueur de la guerre, David est accueilli dans toutes les villes par lesquelles il passe pour rentrer vers Jérusalem comme un héros. Par toutes les femmes, oh quel bel homme que ce David, que ce valeureux guerrier. Il attirait tous les regards féminins, bien sûr masculins, mais féminins. Toutes les femmes de toutes les villes l'accueillaient à l'entrée de leur ville en chantant, en dansant et en poussant des cris de joie. Et parmi ces cris de joie, il y avait ceci, « Saül a frappé ses 1000 hommes et David ses 10 000 ». Et le texte 1 Samuel 18:8 nous dit « Saül fut très irrité et cela lui déplut. » Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on en donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et c'est là que nous voyons que naît la jalousie, la rivalité. À partir de ce moment-là, il pense que David est une menace, qu'il risque de lui souffler son trône. Il risque de l'évincer. Et le texte continue en disant, à partir de ce jour-là, Saül regarda David d'un mauvais œil, et cela durant toute sa vie. Est-ce possible que un petit refrain, Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000, est-ce possible que ce petit refrain de deux phrases démolisse toute une famille et deux vies? Pourtant, David n'avait absolument rien fait de mal. Il n'avait rien prémédité. Il n'avait rien organisé pour. Il était parfaitement innocent, donc il était victime. À cela, à cette jalousie, il faut ajouter une amitié privilégiée. Jonathan, le fils aîné du roi, l'héritier du trône, était l'ami intime de David et l'aimait comme sa propre âme. Saül en était un peu jaloux. Il faut ajouter aussi que le peuple aimait David plus que Saül et il l'estimait. 1 Samuel 18:5, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Ah, la réussite. La réussite totale, la réussite parfaite. Et il plaisait à tout le peuple, et même aux serviteurs de Saül, dit le verset 16. Ah, oh, c'est catastrophique, quelqu'un qui réussit parfaitement partout où il va, alors que soi-même, on n'est pas toujours à la hauteur. Et David avait donné sa fille Michal à David, espérant que ça ne marcherait pas. Mais par malheur, Michal était passionnément amoureuse de David. Et pour comble de malheur, chapitre 18, verset 28, David avait l'approbation divine. Saül vit, verset 28, et comprit que l'Éternel était avec David. Conséquence, chapitre 18, verset 9, 15 et 29. Voilà pourquoi Saül, voyant que David réussissait toujours, avait peur de lui. Verset 15. Et il le craignit de plus en plus. Et il fut toute sa vie son ennemi. Verset 19. Eh oui, Ceux qui nous en veulent et qui nous persécutent le font souvent parce qu'ils ont peur de nous, pas simplement par jalousie, mais parce qu'ils ont peur. Peur que nous ne fassions mieux qu'eux, peur que nous ne soyons plus appréciés qu'eux, plus aimés qu'eux, peur que nous ne prenions leur place. Alors, quelle est l'attitude de David face à cette persécution ? Parce que Saül va persécuter, pourchasser avec ses armes David et sans lui laisser de répit. David fuit loin de Saül. Il va de lieu en lieu, d'abord dans d'autres villes, puis dans le désert. Ça se répète, il va de désert en désert, de lieu désertique en lieu désertique. Chapitre 21, chapitre 22, chapitre 24, chapitre 26 d'un Samuel. Et finalement, il se réfugie même chez les pires ennemis d'Israël, les Philistins. Chapitre 21, verset 10, chapitre 27, verset 1 et 2. David souffre énormément de la situation qu'il ne comprend pas. Et il s'en ouvre à son meilleur ami, Jonathan, en ces termes. 1 Samuel 20, versets 1 et 2. « Mais qu'ai-je donc fait ? Quel est mon crime envers ton père ? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie ?» Les deux amis en discutent. Et c'est la mort dans l'âme que Jonathan lui conseille la fuite. Et c'est dans ce contexte que nous avons lu l'histoire de la péripétie de la caverne d'En-Gedi. David se sent innocent. Et par conséquent, il a confiance en Dieu. Patient, il attend son heure. Et celle-ci surgit par hasard. C'est l'épisode, on va dire, tragi-comique de la caverne d'En-Gedi. Je dis tragi-comique. Tragique et comique, humoristique presque, quand on le voit de l'extérieur. Et tragique. Saül va entrer dans cette caverne en poursuivant David avec 3000 soldats. Et si on lit toute l'histoire, David n'en a que 600. C'est-à-dire qu'ils sont à 5 contre 1. Le combat est tout à fait inégal. Saül a oublié toutes les priorités de son royaume pour satisfaire sa haine. Il a oublié la guerre contre les Philistins, il a oublié le bien-être économique du pays, il a oublié le bien-être de sa famille pour donner libre cours à ses sentiments personnels. Il poursuit donc David à 5 contre 1 dans une chaleur torride dans le désert. Et le texte que nous avons lu nous dit qu'il va même jusque dans les rochers des boucs sauvages. Verset 3 du chapitre 24. Avouez qu'il faut le faire. Et Saül n'est plus tout jeune. Comble du ridicule et de l'humiliation, il va entrer dans cette caverne pour se soulager. Il y entre seul, bien sûr, par discrétion. Et dans le fond de cette caverne se trouvent cachés David et ses 600 hommes. Et ils sont là en silence. Il devait être une caverne énorme avec plein de recoins. Et là, en silence, dans l'obscurité, probablement les soldats de David l'incitent-ils par des gestes. Premier mouvement de... Alors, le texte nous dit au verset 5, l'occasion est rêvée, il ne faut pas la rater, elle vient de Dieu. Ça, c'est l'explication qu'on nous donne après. Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. Premier mouvement, terrible tentation, se venger. Eh oui, n'est-ce pas l'Éternel qui amène mon ennemi mortel entre mes mains? Et il est là, seul, sans armes. Deuxième mouvement, c'est la retenue. David est intelligent, il se dit, attends, si tu veux vraiment plaider ta cause indubitablement devant Saül, il ne faut pas le tuer. Pourquoi ? Premièrement, par respect respect pour les directives divines. 24, verset 7. Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. David respecte d'abord Dieu. Dieu a oint Saül comme roi. Il est toujours roi, il ne va pas y toucher. Il est son roi. On ne porte pas la main sur le roi. C'est un serviteur loyal, c'est un guerrier loyal. Deuxièmement, parce qu'il va prouver indubitablement, à Saül ses bons sentiments, sa pureté d'intention, son honnêteté, son pardon. Et ça devrait mettre fin, en principe, à la haine de Saül. En effet, il s'approche de Saül tout doucement, qui avait probablement laissé son manteau de côté pour ne pas le salir. Et il en coupe délicatement un pan. Ça va lui permettre de lui démontrer qu'il pouvait le tuer, mais que se venger n'est ni son but, ni sa responsabilité. Il laisse ce soin à Dieu. Il fait confiance à Dieu pour la vengeance et pour la justice. Aussi par honneur personnel, par grandeur d'âme. En guerrier respectueux des règles de la guerre, il se refuse à tuer un ennemi désarmé, sans défense, et surtout à le tuer par derrière. Ce serait la honte plus tard pour lui si l'on racontait qu'il a tué Saül en le frappant dans le dos alors qu'il était désarmé et seul. Sa générosité naturelle suscite plutôt en lui de la pitié envers son ennemi en situation de faiblesse. Comment David va-t-il procéder envers Saül? Une fois que Saül est sorti de la caverne et qu'il s'est éloigné assez loin pour ne plus être à portée d'une éventuelle défense ou agression, il crie après lui et il l'appelle et lui dit d'un ton très respectueux. Ô roi, mon Seigneur! Ô roi, mon Seigneur! Le respect, alors que c'est son ennemi qui veut le tuer. Il s'incline, le visage contre terre, et il se prosterne. Verset 9. Il utilise un ton même affectueux vis-à-vis de son beau-père. Verset 12. Vois, mon père, ce que je tiens dans les mains, un pan de ton manteau. D'autre part, David va s'humilier en recourant à une curieuse comparaison, celle que Colia nous a lue. Verset 15. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuit-il? Un chien mort. Une puce. Une simple puce. Qu'est-ce que ça veut dire, cette comparaison? Un chien mort, une puce. Que peut faire un chien mort? Rien. En plus, pour les Juifs, un chien, c'est un animal impur. Une puce aussi. Non seulement ces animaux sont sans valeur marchande, mais ils sont doublement impurs, parce qu'ils sont morts. D'abord parce que ce sont des animaux impurs, ils ne sont pas parmi les animaux purs, mais en plus, ils sont encore plus impurs parce que le chien est mort. Dans 2 Samuel 16, 9, on utilise cette image du chien mort comme une insulte. Dans Matthieu 7, 6 et Apocalypse 12, 20, 15, le chien fait allusion aux païens, aux perdus. Quant à la puce, c'est un animal insignifiant, minuscule, c'est ça, même pas un millimètre carré de surface. Oh oui, ça a du ressort, mais c'est un animal malfaisant, un parasite qui vit dans la poussière, dans les poils, dans quelque chose de sale, quelque chose de sans valeur, que l'on s'empresse d'écraser entre les ongles pour éviter qu'il ne nous contamine. C'est ça une puce. Quand mon chien a une puce, je m'empresse de l'attraper et je l'asperge. Qui n'ait plus de puce. C'est épouvantable. Quand il y a une puce dans la maison, ça se multiplie, ça contamine tout. Le chat, moi, le lit. Et ça laisse ses œufs partout. Et puis une fois qu'on croit qu'on les a éliminés, ça revient. En se comparant à un chien crevé, à une puce, David signifie à Saül la vanité, la futilité, le ridicule de le poursuivre, la vanité de sa haine. Ça vaut pas la peine que tu me haïsses, Saül, je ne vaux rien. Quelle humilité! Alors que David était celui que Saül avait choisi pour libérer Israël des Philistins. David était son meilleur guerrier. Et il savait très bien qu'il allait devenir son successeur à la royauté. Quelle est la réaction de Saül face à cette attitude de David? Versets 17 à 19. Est-ce bien là ta voix, mon fils David? Il l'a appelé mon père et maintenant il l'appelle de nouveau mon fils. Changement total de sentiment. Et Saül éleva la voix et pleura. Il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien. Et moi, je t'ai fait du mal. Touché, ému, il pleure, il se repent. Au chapitre 28, il y a un doublé, il y a un récit fort semblable. Et là, Saül reconnaît son péché. Et il dit au verset 21, « J'ai péché. Reviens mon fils, David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé. J'ai commis une grande faute. » Retournement total de la situation. Deux fois. Saül reconnaît la supériorité de David et sa future royauté. Verset 21. « Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu régneras et la royauté d'Israël restera entre tes mains. » Il reconnaît sa supériorité. Et puis, au verset 22, il réclame un privilège, une protection pour sa propre descendance. Ça veut dire qu'il reconnaît son infériorité. C'est lui qui est le faible maintenant, en disant, « Jure-moi, David !» Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. Autre élément qui s'ajoute au chapitre 26, verset 25, dans le second récit, fort semblable parce que l'histoire se répète. Saül va bénir David. Béni sois-tu mon fils David. Et il fait une prophétie. Tu réussiras dans tes entreprises. C'est la réconciliation. Saül et David redeviennent-ils amis pour cela? Vont-ils entamer ou reprendre de nouvelles relations sur de nouvelles bases en faisant table rase de tout ce qui s'est passé de mauvais jusqu'à présent? Loin de là. Pas question. Verset 23. Les deux parties se séparent en paix. Puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent à la forteresse. Ils se séparent en bons termes, en paix, et chacun s'en va de son côté. Curieuse réaction. Même réaction, même situation au chapitre 26, verset 25. À la fin du verset 25, quand Saül dit à David, « Sois béni mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Ils se séparent, chacun va de son côté. Que devons-nous en conclure pour nous aujourd'hui? Quand nous sommes victimes d'une inimitié, quand nous avons fait tout notre possible comme David pour avoir de bonnes relations avec quelqu'un en dehors de l'église, quelqu'un dans l'église, quelqu'un en dehors de notre famille, quelqu'un dans notre famille, quelqu'un au travail, quelqu'un à l'école, quelqu'un à l'université, partout, que cette personne persiste dans son inimitié. Première chose, si nous imitons David dans sa manière de s'approcher de l'autre, la réconciliation, la paix passe par l'humilité, l'humiliation. N'oublions pas que David est un modèle du Christ, malgré que ses mains aient été chargées de sang. Dieu ne nous oblige. Deuxième élément, premier élément, le pardon, la réconciliation passe par l'humiliation. Et pas l'humiliation de celui qui est coupable, mais de la victime. Deuxième élément à retenir. Dieu ne nous oblige pas à être amis avec tout le monde. Dieu ne nous oblige pas à être amis avec tout le monde, à entretenir les mêmes sentiments, à avoir les mêmes relations avec tous les frères de l'Église, avec tous les membres de notre famille, tous les frères de l'Église. Non. Bien souvent, nos caractères, nos préférences, nos activités, nos cultures nous séparent et nous dirigent vers différents types de relations. Et nous ne devons pas en faire un sentiment de culpabilité. C'est normal que nous nous regroupions selon certaines affinités. Et nous ne devons pas en être jaloux. Nous ne devons pas être jaloux parce que quelqu'un d'autre s'entend bien ou s'entend mieux que moi avec quelqu'un d'autre, que j'aimerais bien, moi, fréquenter. Mais malheureusement, cette personne ne manifeste aucun intérêt pour moi. Après toutes mes tentatives et tout ce que j'ai essayé, toutes mes approches. Quand l'inimitié menace nos relations, au lieu de donner un mauvais témoignage au monde et à l'Église, à l'intérieur ou à l'extérieur, il vaut mieux pour tous d'aller chacun de son côté, de poursuivre tranquillement, en paix, chacun son chemin dans le respect mutuel. Vous savez tout ce qu'il est dit dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui le dit. À quoi reconnaîtra-t-on que nous sommes ses disciples? Parce que nous avons de l'amour les uns pour les autres. Et vous savez, cet amour, il passe parfois par le dur chemin de la séparation. Et parfois même, je vais aller loin, jusque dans le couple. Dans des couples qui ne s'entendent pas. Le dur chemin de l'amour, du respect, passe par la séparation. Voilà l'attitude chrétienne la plus sage et la plus payante. Pourquoi? Parce que dans le cas de Saül et David, enfin le pays a été tranquille quand Saül est allé de son côté et David de l'autre, jusqu'au jour où Saül est mort et où David a pris la relève, en respectant la dépouille de son beau-père. Dieu nous aide. Dieu nous aide à comprendre quelle attitude nous devons avoir aujourd'hui vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre. Quel type d'amour nous devons manifester vis-à-vis de l'un ou de l'autre, sans remords, sans frustration, si ce n'est pas le même type d'amour que nous manifestons à tous, mais que nous manifestions toujours le même respect. Amen.